Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 23 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports, le journal de l'économie australienne et Europe Voice sur la visite historique de dirigeants européens en Ukraine. On passe au grand titre de ce jeudi 23 juin. Plus de 1000 morts en Afghanistan après un tremblement de terre. L'opérateur australien du marché de l'énergie, AEMO, a commencé son approche pour ramener le marché à la normale pour stabiliser les fournitures d'électricité. Au moins 1000 morts en Afghanistan et plus de 1500 personnes blessées après un tremblement de terre de 6,1 dans le sud-est du pays. Samantha Mort du Fonds international des Nations Unies pour l'enfance a déclaré sur SBS News que l'agence humanitaire avait du mal à atteindre les personnes qui avaient besoin d'une aide urgente.
We've got supply trucks on the road. We are getting into some of the communities, but not all of them. And some of these communities are up in the mountains. They don't have proper roads. So that's challenging. And then on top of that, because of the poverty and the simple lifestyle of these villages, they don't have sophisticated equipment to get through the rubble and get people out.
On écoute maintenant le témoignage d'une victime qui a perdu son fils.
We drank our tea, got to bed and woke up to the shock of the night's earthquake. I don't know exactly what time it was. I saw my son under the roof and he was yelling for help.
En Australie, l'opérateur du marché de l'énergie a commencé son approche par étapes pour ramener le marché à la normale. Le système a été déstabilisé la semaine dernière, incitant AEMO à prendre le contrôle pour stabiliser les fournitures d'électricité. Le ministre fédéral du changement climatique et de l'énergie, Chris Bowen, a déclaré sur l'ABC que les contrôles étaient absolument nécessaires.
It's been a tough situation. It was a big call, but we will do what we have to do as a government. They will do what they have to do as an operator to keep the lights on. Consumers come first, and that's exactly what we've done, working in difficult circumstances, because as you know, we haven't had enough generation come on in the last decade to replace the generation which inevitably had to leave. There hasn't been a plan for the transition to renewables. We don't have enough storage. We don't have enough transmission. We're going to get on and fix that. But in the short term, our job is to keep the lights on, and that's what we'll continue to be focused on.
Le ministre fédéral de la Défense, Richard Marles, s'est engagé à renforcer la coopération avec l'Inde en matière de changement climatique et de défense à la suite d'une rencontre avec son homologue indien. Le vice-premier ministre australien est à New Delhi pour une visite de 4 jours pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations. Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a déclaré qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles des liens solides entre les deux pays seraient bénéfiques.
Recently concluded free trade agreement, commerce, joint research, culture and people-to-people relations. Bilateral defense cooperation is an important pillar of our comprehensive strategic partnership. Our close defense and security cooperation is an important factor of stability in the Indo-Pacific region.
De nouvelles statistiques sur la criminalité en Nouvelle-Galles du Sud montrent une forte augmentation du taux d'infraction de harcèlement et d'intimidation liée à la violence familiale. Les chiffres montrent que les incidents liés au crime ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, passant de 8120 cas en 2012 à 17063 cas en 2021. Le chiffre est encore plus élevé dans les communautés autochtones, avec un tiers des 272 adultes incarcérés pour harcèlement domestique. Jackie Fitzgerald du Bureau of Crime Statistics and Research de Nouvelle-Galles du Sud affirme que ce n'est pas nécessairement que les taux de criminalité ont augmenté, mais plus probablement qu'il est contrôlé différemment.
Look, it's possible that more people are coming forward to report this crime. That's a possibility. But I think there's no question that when these incidents come to police attention, they're now being recorded as a crime, whereas possibly in the past they weren't so much. So the seriousness of domestic violence is really being appreciated.
Une enquête parlementaire en Australie-Occidentale devrait aujourd'hui révéler des preuves d'abus et de harcèlement sexuel généralisé dans l'industrie minière de l'État. L'enquête, présidée par la députée libérale Libby Metham, rendra ses conclusions après un an d'enquête sur la culture en milieu de travail dans le secteur minier. L'enquête a été lancée après que plusieurs femmes ont signalé des expériences d'agression sexuelle alors qu'elles travaillaient dans des mines de WA, les géants miniers Rio Tinto, BHP et Fortescue Metals Group ont déclaré à l'enquête qu'ils avaient licencié des travailleurs suite à des agressions, mais qu'ils avaient également mis en place des mesures de sécurité améliorées dans leurs mines, notamment des limites d'alcool plus strictes et une meilleure vidéosurveillance. Un blitz publicitaire sera lancé ce jeudi pour encourager les gens à se faire vacciner davantage contre le COVID-19 cet hiver. Le ministre fédéral de la Santé, Mark Butler, a déclaré que la campagne allait cibler les 6 millions d'Australiens qui n'ont pas encore reçu leur troisième dose de vaccin. Il déclare également que la campagne médiatique va se concentrer sur les parents et les membres des communautés aborigènes.
There is still a gap between the general population double dose rate and Indigenous Australians double dose rate. It's running now at about 15-20%, and I fear that gap is substantially higher for a third or booster dose. My focus right now is what measures can we put in place to get us through this winter period where you've got the coexistence of flu and still very high rates of COVID impacting our hospital systems.
Les dirigeants autochtones se sont adressés au Parlement du Victoria hier avant le débat sur les lois sur les traités visant à établir une autorité indépendante. Marcus Stewart et Auntie Geraldine Atkinson de l'Assemblée des premiers peuples du Victoria ont prononcé des discours à la Chambre basse. Ils étaient vêtus de capes de fourrure traditionnelles et de peintures faciales.
It recognizes the journey to treaty isn't only about destination. But how we get there is vitally important. Our community knows what's best for our community. It's essential that First Peoples lead this journey.
It's a good example of the progress that can be made when First Peoples are put in the driver's seat. When solutions are crafted by First Peoples, for First Peoples.
Plus de 50 000 rapports d'escroquerie à travers l'Australie, avec au moins 800 000 dollars perdus l'année dernière. C'est selon un rapport de la NAB, National Australia Bank, et du ATO, Australian Taxation Office. Laura Hartley, responsable du conseil et de la sensibilisation à la sécurité du groupe NAB, affirme que la fin de l'année financière est une période dorée pour les criminels et elle offre des conseils sur la façon de rester protégé.
If you're asked for personal or financial information, don't respond or click on the links. If you receive an unexpected call from someone claiming to be from the ATO stating that you're due a refund, threatening you with arrest, or stating that you must pay money to receive a tax refund, hang up. And if in doubt, you can call the ATO on the number listed on their official website to confirm that something is legitimate, or you can also ask your accountant.
L'ambassadeur d'Ukraine en Australie a réaffirmé l'invitation de son pays au Premier ministre australien Anthony Albanese à visiter la capitale du pays lors de son voyage en Europe. Le Premier ministre australien doit se rendre en Espagne la semaine prochaine pour assister à un sommet de l'OTAN. L'ambassadeur d'Ukraine en Australie a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky serait ravi d'accueillir le Premier ministre australien car cela enverrait un message fort de solidarité avec l'Ukraine. La Commission européenne va étudier la candidature de l'Ukraine et le processus d'adhésion à l'Union européenne ce jeudi 23 juin à Bruxelles. Le président ukrainien se dit optimiste que la candidature sera approuvée. Volodymyr Zelensky.
We are just days away from the European Union's historic decision on Ukraine. And I am sure that none of us, none of you, have any doubt that Ukraine should get a positive decision. Russia's attack on Ukraine has restored to our memory the worst pages of history. Russian bombs are destroying cities. Russian soldiers are killing thousands of civilians. Russia is even carrying out mass deportations of Ukrainians.
En France, après avoir consulté les forces politiques du pays, le président Emmanuel Macron a parlé pour la première fois hier depuis les élections législatives. Il a exclu la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Les précisions d'Anthony Latier pour RFI.
Emmanuel Macron l'assure, il a entendu le message des urnes et il est prêt à changer de méthode.
Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect.
Mais quel compromis Emmanuel Macron est-il prêt à faire ? Le chef de l'État répète que c'est autour de son programme présidentiel que doivent tourner les discussions.
Ne jamais perdre la cohérence du projet que vous avez choisi en avril dernier.
Pas plus d'impôts, pas plus de dettes, dit notamment Emmanuel Macron, qui prend ensuite les Français à témoin en appelant les autres partis politiques à prendre position.
Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ? S'engager à voter simplement certains textes ? Notre budget ? Lesquels ? Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
Autrement dit, la balle n'est pas dans son camp, mais dans celui des oppositions. C'est à elles de prendre leurs responsabilités aux yeux d'Emmanuel Macron pour éviter tout blocage des institutions.
On passe à la météo pour ce jeudi. En Australie, à Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 18. Melbourne, 17. Hobart, 16. Canberra, 13. Sydney, 19. Brisbane, 23. Cairns, 26. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximal de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi, plus de 1000 morts en Afghanistan après un tremblement de terre. L'opérateur australien du marché de l'énergie, AEMO, a commencé son approche pour ramener le marché à la normale, pour stabiliser les fournitures d'électricité. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. Thank you.
votre journal des sports de ce jeudi 23 juin 2022. Et on commence avec de la natation, bien sûr. Trois médailles pour la France en une seule journée. Léon Marchand, deux fois champion du monde à Budapest, après l'or sur le 400 mètres 4 nages samedi dernier. Eh bien, le nageur de 20 ans a de nouveau été sacré, cette fois sur le 200 mètres 4 nages. On l'écoute.
Champion du monde du 200 mètres 4 nages, immense champion.
Moi, après le 100 mètres, il me reste encore beaucoup d'énergie. C'est ce que je fais en général, du coup, ça me permet d'être fort en brasse. C'est là où voilà, je prends de l'avance sur les autres, et puis le crawl après, il faut juste toucher le mur rapidement.
On parlait de trois médailles, celle de Léon Marchand, donc Maxime Grousset a obtenu l'argent sur le 100 mètres nage libre et Analia Pigré s'est offert le bronze sur le 50 mètres d'eau. En natation toujours, on apprend que l'Australienne Shayna Jack a été exclue de ses mondiaux après s'être cassée la main. La nageuse de 23 ans s'est blessée lors d'un échauffement alors qu'elle se préparait pour une épreuve de 100 mètres nage libre à Budapest. Donc, Shayna Jack, qui avait été longtemps interdite de compétition sportive pour dopage, eh bien, elle était de retour dans les bassins et avait décroché l'or et l'argent dans les relais nage libre et mixte le week-end dernier. Le procès de Michel Platini et Sepp Blatter s'est achevé hier en Suisse avec un jour d'avance. Les deux géants du football étaient sur le banc des accusés dans cette affaire dite des 2 millions de francs suisses. Ils avaient le dernier mot pour conclure les débats. On écoute les deux prévenus, respectivement Michel Platini et Sepp Blatter.
Oh ben que j'ai dit que je n'étais pas venu dans le football pour tricher, pour spolier et puis pour toutes ces choses-là quoi. J'étais venu dans le football pour m'occuper de football. Pas pour faire des magouilles, ben, que c'était pas facile pour ma famille, c'était pas facile pour mes amis, c'était pas facile de penser toujours à ça, c'était pas facile de passer par tous les organes de la FIFA qui veulent te tuer, comme la commission d'éthique, la commission d'appel, la commission, le TAS, le tribunal arbitral du sport, tous ces copains là, tous ces copains suisses. Et donc c'est difficile, et donc tu vis toujours là-dedans. Puis ben maintenant c'est un vrai tribunal qui va décider avec des gens normaux, pas maqués. Pourquoi je serais pas blanchi? J'ai rien fait.
Je ne vois pas comment je peux être coupable. Alors, donnez-moi la liberté. Difficile, toujours dans l'incertitude de la justice et des méchancetés qui sont dites là, que je suis un voleur, enfin tout. Mais maintenant ça va. Avec un bon avocat et ma fille à côté, ça va aller.
Un mot de tennis à présent et ce retour surprise, ce retour en force, celui de Serena Williams. L'américaine s'est octroyé une victoire en double à Eastbourne avec 11 jabbeurs, 2-6, 6-3, 13-11 contre Marie Bouskova et Sarah Sorribes-Tormo. Serena Williams, 23 grands chelems à son palmarès, craignait ne pas pouvoir revenir dans la compétition après sa blessure à la jambe lors de Wimbledon l'année dernière. À ce propos, on écoute cet échange en conférence de presse entre les journalistes et Serena Williams.
During the past year, was there ever a moment when you thought I can't play tennis again? The body's just not going to let me. Was there ever that doubt or moment?
Absolutely, for sure. I would be dishonest if I said it wasn't. But and now my body feels great. I mean, it's doubles. I'm only playing half of the court, but I've been doing a lot of training, and so it definitely feels good. So.
Serena, just if part of tonight was perhaps to get a bit of reassurance and to see some rewards for all the work you've put in, was it a little bit of a case of job done?
What do you mean?
A bit of reassurance ahead of next week.
Absolutely. I definitely felt good out there, and I was talking with Ons in the first set, and I said, you know, we're not playing bad. They really played really good in that first set. But obviously winning and getting more balls and playing a little bit more made us feel a lot better, and it definitely felt reassuring, like, okay, it's been clicking in practice, and now it seems like it's clicking. I mean, it's doubles, but it still means a lot to both of us to be in it, so yeah.
Football à présent et l'Euro féminin 2022 va démarrer vendredi 6 juillet jusqu'à la fin du mois. La grande finale sera jouée à Wembley puisque c'est l'Angleterre qui organise l'événement. C'est la 13e édition cette année de ce championnat d'Europe féminin qui a été lancé en 1984. On écoute Chris Bryant, il est le directeur du tournoi.
Yeah, I really think you've got to look at sort of our ambitions for the tournament in the whole. I don't think it works to sort of just isolate yourself down to one specific venue. You know, over 700,000 tickets are available for this tournament. We think that shows the ambition that we've got for the event and for the sport. You know, and I think with any event, you've got to sort of understand we want full stadia, we want great atmospheres for all the teams, not just to focus on England. We want everyone to have the best possible experience they can. And with that means we need some smaller stadia, some bigger stadia. You know, we see selling out stadia as a good thing. That, you know, that's a fantastic achievement. And we want to then move the demand to some of the other games and try and fill those stadia out. That's sort of how this works. And so we needed the right blend of stadia to deliver the event.
En basketball, la légende australienne Lauren Jackson a été nommée dans l'équipe des Opals pour la Coupe du Monde de cette année. La joueuse de 41 ans avait pourtant pris sa retraite il y a 9 ans. Elle rejoindra le camp de l'équipe dès la semaine prochaine. Écoutez.
I've only been named in the squad. I think, you know, I've got to get through that week of training and I could fall flat on my face, you know. So I think in terms of leadership, I definitely have a different perspective now. You know, I'm a mum, I'm a working mum. I guess I love the game now for what it is. It's not my profession anymore.
Lauren Jackson, considérée comme la plus grande joueuse de basketball de l'histoire de l'Australie, avec à son palmarès 4 médailles olympiques et 3 championnats du monde. En bref, cyclisme et à l'approche du début du Tour de France, l'Australien Caleb Ewan peut compter sur le soutien de son équipe Lotto, alors que le coureur Rohan Dennis, lui, n'a pas été retenu chez Jumbo Visma. En footy, la star de Collingwood, Jordan De Goey, a été remerciée indéfiniment après ses gestes déplacés en boîte de nuit à Bali, gestes relayés sur les réseaux sociaux. Le joueur de l'AFL de 26 ans s'est depuis excusé. Et enfin, cricket, opération séduction de la part de la Big Bash League envers les joueurs étrangers. Cricket Australia souhaite attirer les plus grands noms pour le tournoi à venir cet été. Les salaires des joueurs étrangers seront donc subventionnés, même si ce n'est que pour une partie de la saison. Voilà, messieurs, dames, c'était votre journal des sports de ce jeudi 23 juin 2022.
Bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Pertich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et le gouverneur de la Banque centrale a donné un discours très important cette semaine à Sydney.
Oui, tout à fait. Donc, c'est Philip Lowe qui a vraiment donné une évaluation de la situation économique ici en Australie en ce moment. On peut dire que c'était une évaluation assez mélangée. Pas terrible, mais pas formidable non plus. Des problèmes à long terme, mais à la base, il y a des choses qui sont plutôt positives en même temps. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que la Banque centrale a du mal à gérer un peu la situation économique en ce moment, en particulier le problème d'inflation. Philip Lowe qui a dit qu'il est prêt à tout faire pour adresser ce problème. Mais quand même, il a encore sonné l'alerte. Il a dit que l'inflation devient de plus en plus à cause des choses qui se passent en Australie plutôt qu'à cause des problèmes et des questions globales. Donc, il pense que le taux d'inflation va toujours atteindre 7% cette année, comme déjà prévu. Là, pour le moment, on est à 5,1%, qui est haut, qui est beaucoup plus haut que les 2 à 3% que la Banque centrale aimerait bien voir. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a plus de choses comme la nourriture, l'essence, les matériaux pour la construction, etc., qui montent en prix et qui montent bien plus que les 3% qu'on aimerait bien voir. Donc, il y a beaucoup de choses en même temps, les prix qui montent en même temps. Donc, c'est une forme de pression qu'on n'a pas vue ici en Australie à ce niveau-là depuis très longtemps. Même, on peut dire, depuis l'époque de Bob Hawke et Paul Keating au début des années 90, quand l'Australie et en fait beaucoup du monde occidental étaient en récession pendant un moment là, à cette époque. Donc le Dr Lowe, lui, il pense pas qu'on va tomber en récession, mais il a dit que la Banque centrale avait aussi réglé ou même changé ses prévisions économiques pour l'Australie pour prendre en compte cette inflation et des choses comme la hausse des prix d'électricité et du gaz qu'on a vu là avec cette crise d'énergie sur la côte est du pays. Mais comme je viens de dire, il pense pas que l'économie va ralentir non plus et qu'il voit pas pour le moment au moins de possibilités de récession. Il y a d'autres économistes qui ne sont pas d'accord. Ils disent que, ça ne se présente pas très bien. Mais Dr Lowe dit qu'à la base, l'économie reste très bien. Le secteur du logement et de l'emploi sont très forts. Le taux de chômage est à son plus bas niveau en 50 ans. Les termes de l'échange sont excellents en ce moment. Et même, il dit que le taux d'intérêt, c'est vrai qu'il vient de monter plusieurs fois ou deux fois là récemment, que ça va continuer, mais quand même qu'il reste toujours très très bas. Mais d'autres économistes disent que si Dr Lowe veut à tout prix empêcher l'inflation de continuer à monter, ça veut dire que le taux d'intérêt vont monter, ça c'est sûr, et ça serait difficile d'empêcher l'économie de ralentir. Donc pas tout le monde est d'accord avec le chef de la Banque centrale en ce moment.
Et puis on va parler de quelque chose d'un peu différent. Les victimes d'abus sexuels veulent que la loi soit changé pour empêcher les pédophiles de mettre leur argent dans les cotisations de retraite, le système de superannuation en Australie.
Oui, voilà. Donc, les cotisations de retraite, donc superannuation, comme on dit ici, c'est des comptes en banque qu'on ne peut pas toucher. Donc, ça ne peut pas être utilisé pour récompenser les victimes de l'abus sexuel ou autre. Donc, c'est de l'argent qui est bloqué. Alors, si un survivant de cet abus poursuit en justice un pédophile dans un cas civil, par exemple, l'argent dans leur compte en banque de superannuation ne compte pas vis-à-vis des paiements de compensation. Et alors là, on a vu Grace Tame cette semaine, Grace Tame qui était l'Australian of the Year en 2021, elle a fait appel au gouvernement de Anthony Albanese, du Premier ministre, de changer cette loi parce qu'elle a dit que les pédophiles peuvent cacher leur argent dans ses comptes à banque. Et ça veut dire que le gouvernement, ou en fait plus précisément le grand public qui paye des impôts, sera obligé donc de payer les sommes de compensation quand ça devrait être les pédophiles, elle a dit Grace Tame. C'est eux qui devraient être punis, c'est eux qui devraient payer ça. Et là, il y a un homme qui s'appelle Howard Brown, qui travaille comme défenseur des victimes. Et il a dit que ce qui s'était passé en 2017, c'est qu'on a vu qu'il y avait des victimes d'un pédophile qui s'appelle Morris Van Ryn, qui était dans la région de Bayer Valley, en Nouvelle-Galles du Sud. Et là, les victimes n'ont pas pu avoir accès à des centaines de milliers de dollars que cet homme, Van Ryn, avait mis exprès dans son compte de superannuation parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas le toucher. Donc, apparemment, ça se passe assez souvent. C'est pour ça que Grace Tame, Howard Brown et d'autres disent que cette situation financière, ce loophole doit être fermé rapidement pour que ces pédophiles ne peuvent pas garder leur argent et avoir de l'argent comme ça quand ils sortent de prison.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci Jean-Noël. À la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Voice numéro 99, et comme pour chaque épisode, nous avons l'honneur d'être en compagnie de Nathanaël Bloch. Nathanaël, bonjour.
Bonjour Marianne.
On va faire un point sur la situation en Ukraine. On en parlait justement dans le Europa Voice numéro 98, mais il s'en est passé des choses en une semaine. Déjà, au lendemain de la visite des chefs d'État et de gouvernement français, italien, allemand et roumain cette semaine, eh bien, on a appris que la Commission européenne avait recommandé d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. Nathanaël, c'est en apparence une très grande annonce, mais est-ce que ça va être suivi de grandes conséquences ?
Cette décision, elle est encore conditionnée à ce que il se passera au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement européens qui doivent se retrouver cette semaine à Bruxelles et qui doivent en fait décider s'ils suivent ou non cet avis. Donc, c'est une première victoire, mais qui pour l'instant, Marianne, a une portée très symbolique parce qu'il y a tout un processus encore derrière qui doit s'engager. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il faut pas l'oublier, hein, c'est quand il y a ce genre d'annonce, c'est pour savoir non pas si l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne, mais c'est pour savoir si l'Ukraine peut tout simplement commencer à déposer sa candidature pour entrer dans l'Union européenne. En fait, c'est une obtention pour l'Ukraine de déposer officiellement son dossier et de remplir les différents critères. Et on sait qu'à l'heure actuelle, l'Ukraine ne remplit pas encore tous les critères pour entrer dans l'Union européenne. Donc ça veut dire que même s'il y a un avis positif, il y a un oui des chefs d'État et de gouvernement européens, après il va devoir avoir un certain nombre de réformes structurelles en Ukraine pour pouvoir accéder à l'Union européenne. Donc on est sur un timing de moyen, voire long terme, de toute façon, Marianne.
Et cette visite d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz, mais aussi de l'Italie, de la Roumanie la semaine dernière, ça a été présenté comme une visite, bien sûr, pour rappeler le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Mais quand on y regarde de plus près, c'est pas la seule raison. Hein. C'était un peu une visite pour redonner un horizon politique.
Déjà, c'est une visite d'Emmanuel Macron. Ça faisait quand même des semaines, des mois que Volodymyr Zelensky l'attendait. Le président français a quand même été beaucoup critiqué pour ne pas avoir été sur le terrain plus tôt. Mais effectivement, il y a à la fois la réassurance d'un soutien à l'Ukraine pour arriver à une solution de paix, avoir une feuille de route, mais surtout de faire que l'Ukraine retrouve une situation d'indépendance et recouvre en fait la totalité de ses territoires. Et puis après, au-delà de ça, il y a un projet politique qui est plus grand, parce qu'en ce moment, l'Ukraine, c'est pas un cas isolé, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on parle de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, mais il y a d'autres pays qui sont aussi concernés. On a la Moldavie, notamment, on a les pays des Balkans. Alors, pourquoi on a mêlé la visite d'Emmanuel Macron, de ses homologues italiens, roumains et allemands à cette question de l'accès de ces pays à l'Union européenne? C'est parce qu'en fait, il y a deux risques. Il y a un risque d'abord que ces pays lorgnent du côté de l'Est et du côté de Moscou. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un autre risque qui est tout simplement ce qu'a fait la Russie en Biélorussie, ce qu'a fait la Russie en Ukraine. Elle peut très bien le faire à d'autres pays. Et donc là, on a quand même une Union européenne qui est un petit peu plus dans l'anticipation de à la fois montrer son soutien à l'Ukraine, son soutien militaire pour trouver une solution, une sortie diplomatique et rendre à l'Ukraine encore une fois la totalité de son territoire. Mais il y a aussi un projet politique plus important derrière qui est vaut mieux que ces États lorgnent du côté de l'Union européenne, même si on leur fait miroiter une entrée bientôt, alors que ça va prendre des années et des années, plutôt qu'ils aillent regarder du côté russe et soit une menace pour l'Union européenne. Et puis, il y a un autre aspect aussi, Marianne, c'est que en fait, il faut toujours, l'Europe a toujours cette idée aussi d'avoir une espèce de zone tampon entre ces pays qui appartiennent déjà à l'Union européenne, les 27, et la Russie. Et donc, la zone tampon, elle est au niveau de ces pays-là. Elle est au niveau de l'Ukraine, de la Moldavie, des Balkans. Et donc, c'est important aussi pour les dirigeants européens d'avoir encore cette zone tampon et d'avoir des relations avec ces pays et de leur parler du projet européen.
La Russie, justement, il y avait le sommet de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, sommet qui a duré 3 jours. Vladimir Poutine a prononcé un discours. Selon moi, il y a 2 angles importants à retenir du discours de Vladimir Poutine. Déjà, le fait qu'il a vanté la résilience russe face aux sanctions occidentales. Mais surtout, deuxième point, il assure n'être pour rien dans la crise économique mondiale et il rejette même la faute sur les pays du G7.
C'est assez intéressant, Marianne, parce qu'en fait, j'ai trouvé, c'est un peu ironique, mais j'ai trouvé que Vladimir Poutine, à travers ses sorties et ce sommet justement de Saint-Pétersbourg, mettait en place une vraie stratégie de communicant professionnel qui est celle d'installer son propre narratif. Au lieu de répondre directement et de rentrer dans le jeu en fait rhétorique des Européens, il a placé lui-même son narratif, sa narration, et a parlé d'alliance économique, de développement durable, il a reparlé des relations avec la Chine, et d'une certaine façon, ce qui se passait en Ukraine, et il a eu raison d'un point de vue russe de le faire, c'était pas anecdotique, mais c'était une petite partie de l'actualité et économique et politique du pays. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, la deuxième chose, il faut pas aussi l'oublier, c'est que il y a quand même une guerre sur le terrain, mais il y a aussi une guerre de l'opinion, et Vladimir Poutine doit toujours apparaître comme justifier ce qui est en train de se passer en Ukraine, l'envoi des troupes, la perte des hommes. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il est obligé de développer une narration qui est plus positive que celle d'un grand pays pas capable, en fait, d'envahir l'Ukraine et avec des poches de résistance que personne en fait n'attendait. Marianne, il faut être aussi très honnête sur ça. Il y a 4 mois, tout le monde pensait que l'Ukraine allait être dérobée et que ce qui s'est passé en Crimée allait se passer dans d'autres régions de l'Ukraine. Et puis on le voit, la résistance à Kiev, le fait que Kiev ne soit pas tombé entre les mains russes. Donc vous voyez, Vladimir Poutine, il a quand même eu ce besoin à ce sommet de Saint-Pétersbourg, de créer à lui sa propre narration plus positive et réaffirmer ce partenariat stratégique pour lui, pour la Russie avec la Chine.
Mais Vladimir Poutine, quand il a déclenché la guerre, même si les Russes, Moscou n'utilise pas le mot de guerre, il parle d'opération militaire, je le rappelle, on pensait tous que ça serait une guerre, eux les premiers, ils pensaient que ça serait une guerre éclair, ils pensaient avoir Kiev très rapidement, ça s'est pas passé comme ça, mais là, Vladimir Poutine, est-ce qu'il est pas en train de comprendre que finalement, il peut quand même avoir le dessus, si on regarde la situation plus concrètement sur le terrain, on voit que l'armée ukrainienne a perdu plus de la moitié de ses armements, on voit que l'étau se resserre dans le Donbass, notamment là, ces derniers jours, la ville de Lysychansk, dont on parle beaucoup. On voit que cette ville est sur le point de tomber aux mains des Russes. Vous parliez de la résistance ukrainienne. Est-ce que cette résistance peut durer encore longtemps ou au contraire, est-ce que l'Ukraine est en train de perdre pied?
Je pense que personne ne peut lire dans les boules de cristal. C'est vrai, vous l'avez mentionné, l'Ukraine a perdu quand même un nombre important de ses armements. C'est le chef logistique de l'armée de terre ukrainienne qui parle de 50% de ses armements. Après, la question, c'est de savoir plus, j'allais dire, là, d'un point de vue géopolitique, diplomatique, où est-ce que les fronts se déplacent? Et est-ce qu'on va arriver à une situation un peu de statu quo, comme il y a eu avec la Crimée? Parce que finalement, entre 2014 et aujourd'hui, on avait une situation de fait avec l'annexion de la Crimée. Et puis après, maintenant, évidemment, cette année, Vladimir Poutine a redéclaré une guerre à l'Ukraine et avec toutes les invasions qui s'en sont suivies depuis février dernier. Donc, est-ce qu'on arrive à une situation de statu quo? Ou est-ce qu'au contraire, comme les Européens, Marianne, ou au contraire, comme les Européens l'ont affirmé à Zelensky lors de leur visite cette semaine, est-ce que l'idée, c'est de rendre à l'Ukraine l'ensemble de ses territoires? Et dans ce cas-là, on s'oriente vers un épisode de guerre beaucoup plus long. Et donc ça, c'est une question qui est très difficile à répondre, mais je pense que c'est véritablement ça qui va aussi définir ce qui va se passer sur le terrain et une paix provisoire entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire quels seraient les sacrifices territoriaux que l'Ukraine serait prête à faire pour acheter une paix avec la Russie. Mais encore une fois, il semble que la dynamique européenne et il semble que la volonté européenne ne soit pas celle-là et elle soit véritablement de gagner cette guerre ou en tout cas de faire que l'Ukraine recouvre l'ensemble des territoires qui ont été annexés par la Russie.
Bon, on imagine que, tristement, on y verra plus clair dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci beaucoup, Marianne.
13h47 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et dans quelques instants, on va célébrer Alsace Day.
Tous les ans, le 24 juin, une communauté alsacienne fête leur région. Et on a Serge Thoman avec nous pour nous parler de cet événement le 24 juin qui aura lieu également ici à Melbourne. Bonjour Serge.
Oui, bonjour Thomas et bonjour à nos auditeurs et bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette journée du 24 juin ?
Alors, depuis 2017, dans le cadre de l'Union internationale des Alsaciens, tous les Alsaciens à travers le monde se réunissent pour fêter l'Alsace. Donc, ce sont des Alsaciens à travers le monde, mais également des Alsaciens en Alsace. Et donc, les différentes associations se retrouvent autour d'une flamme aquarelle, d'une choucroute ou d'une bière ou d'autres choses. Et donc, depuis l'année dernière, on a commencé à faire ça en Alsace, à Melbourne. Et donc, on sera en live avec le monde ce soir-là. Et donc, l'an dernier, c'était avec le confinement et tout ça, on a réussi à faire un petit truc devant Luna Park. Et cette année, on va plus grand et donc on aura une belle soirée alsacienne avec une superbe choucroute faite par un Normand.
Ah oui, ça c'est original parce que Philippe Mouchel que nous avons là est un grand chef qui a travaillé avec Paul Bocuse. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un chef extrêmement connu en France, un des plus étoilés du guide Michelin, voilà, lyonnais. Vous avez fait vos armes.
Chef of the century. Ouais.
Exactement. Et Philippe Mouchel vient de Normandie. Donc vous allez être en charge d'organiser la soirée, d'organiser le menu. Qu'est-ce que vous avez prévu au menu de cette soirée ?
Alors voilà, donc plat alsacien bien sûr. Pour commencer, nous aurons la flamencouche, la célèbre flamencouche, qui est une fine pâte, genre pâte à pizza, mais très très fine, avec une crème, fromage blanc, crème fraîche, oignon, lardon, et cuite très très rapidement, qu'elle soit bien, bien croustillante. Après, nous avons prévu une crème de châtaigne. Une crème de châtaigne garnie avec des spätzle au marron. Hein. Et bien sûr, en plat principal, ce sera la célèbre choucroute. Un choucroute dont tout le monde connaît la choucroute, mais la choucroute, c'est du chou fermenté et garni avec différentes saucisses, saucissons, saucisses de Morteau, saucisses de Strasbourg et du jarret de porc et de la poitrine de porc aussi. Hein, donc ça, tout ça est cuit ensemble, beaucoup de goût.
Avec du vin blanc.
Ah bah bien sûr, la choucroute par elle-même est cuite avec du Riesling. Donc ce sera servi avec du Riesling ou du Pinot Gris, enfin des vins alsaciens bien sûr.
Alors je sais que vous organisez régulièrement des soirées thématiques et c'est un challenge. Par exemple, vous aviez fait une soirée cassoulet, alors ça peut paraître très simple et assez rigolo de le dire comme ça qu'une soirée cassoulet où on achète des haricots. Non, c'est pas si simple. Pour trouver les ingrédients, on est quand même à l'autre bout du monde, à 16 km de la France. Il y a certains ingrédients qui sont difficiles à trouver. Est-ce que c'est le cas pour la choucroute ?
Pour la choucroute, non, pas vraiment. Pas vraiment, enfin... Ce sera jamais la charcuterie. La charcuterie ne sera jamais la charcuterie qu'on aura en Alsace, par exemple. Mais il y a quand même des gens qui sont assez passionnés en Australie, notamment à Melbourne, et qui nous ont fait des bons produits. Donc il n'y a pas de problème.
Et combien de temps de cuisson ? Combien de temps de préparation
pour préparer ? Ça cuit déjà la choucroute pour la fermenter, ça prend au moins un mois. Et la cuisson par elle-même, ça prend entre 3 et 4 heures. Tout ça, c'est des plats qui prennent du temps. C'est comme le cassoulet, ça prend 2 jours à faire. Hein, hier, j'ai une cliente qui m'envoie un email, me dit « Monsieur Mouchel, je voudrais un cassoulet. Je suis désolé de vous donner si peu de temps, mais si vous voulez, je peux aller tout vous acheter au marché. » Je dis « Madame, ce ne sera jamais prêt pour ce soir. Il faut au moins 2 à 3 jours pour cuire un cassoulet. »
Alors, monsieur Mouchel, j'ai une anecdote avec votre cassoulet. Je ne sais pas si on peut l'évoquer. Vous avez été arrêté avec des haricots.
Ah oui, tout à fait. J'avais essayé de... Ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que j'avais essayé d'amener des haricots tarbés. C'est le haricot pour le cassoulet, bien sûr. Et malheureusement, à la douane, ils m'ont tout pris. Donc, okay. Nous sommes...
Tu auras fait la cuisine ?
Je pense qu'ils ont tout mis à la poubelle. Mais donc, nous travaillons le cassoulet avec des haricots locaux.
D'accord.
Ce qui est très bien, mais c'est pas 100% authentique.
Alors, on parle bien sûr de plats traditionnels français, avec des goûts français. On sait que les Australiens aiment bien le slow cooking à la française, donc là, on est en plein dedans avec le cassoulet.
Tout à fait.
En termes d'éducation gustative, comment vous avez cette approche avec les Australiens, leur apprendre, parce que c'est quand même des goûts assez différents de ce qu'ils peuvent connaître.
Finalement, les Australiens connaissent assez bien ces plats-là, parce qu'ils voyagent. Vous savez, les Australiens voyagent énormément. Vous pouvez le voir en ce moment que les frontières ont réouvert, ils ont des gros problèmes pour refaire leur passeport. Hein, il leur faut un mois. Et il y a une queue, il y a une liste d'attente incroyable. Ça veut dire que tout le monde veut voyager. Les Australiens voyagent énormément. Donc ils savent ce que c'est qu'un cassoulet, ils savent ce que c'est qu'une choucroute, ils savent ce que c'est qu'une carbonade. Il n'y a aucun problème.
Et une communauté, Serge, j'ai une question pour vous. La communauté alsacienne en Australie, notamment à Melbourne, est-elle importante? Vous avez combien de membres? Comment vous arrivez à quantifier le nombre d'Alsaciens ici sur...
Moi, j'en connais une vingtaine ici, mais j'avais regardé sur la liste électorale. Donc sur la liste électorale consulaire, il y a les lieux de naissance et il y a à peu près 460 personnes né en Alsace sur la liste électorale. Donc, ça, c'est pour toute l'Australie. Donc, les gens sont éparpillés un peu partout. Donc, c'est difficile d'avoir une réunion, mais j'en connais quelques-uns à travers l'Australie. Et il y en aura quelques-uns qui vont venir pour le dîner la semaine prochaine.
Alors, c'est assez particulier quand même que les Alsaciens organisent leur journée le 24 juin. Pourquoi pas les Normands? Pourquoi pas les Parisiens? Pourquoi pas les Marseillais? Pourquoi les Alsaciens ont cette journée? Et c'est la journée du 24 juin partout dans le monde.
Voilà. Je crois que c'est l'Union internationale des Alsaciens est une association très dynamique. Et on est l'association qui regroupe donc des Français qui vivent à l'étranger. Par région, qui est la plus dynamique. Et donc, tout le crédit est dû à cette association. Et donc, c'est pour ça que ça a lieu, quoi. Donc, à part le fait qu'on enregistre, qu'on a des trucs un peu partout, il y a des écrans géants à Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Donc, il y a des animations organisées avec le support de la région. Et des villes donc en Alsace pour montrer le développement ou l'influence de l'Alsace à travers le monde. Donc c'est un événement qui passe sur Facebook, YouTube, etc., mais également en live sur des places en Alsace.
Alors justement, il y aura un streamé en direct depuis le restaurant de Philippe Mouchel sur cette plateforme pendant 20 minutes lors de la soirée.
C'est ça, oui. Donc, le but, c'est également de faire parler des gens qui... J'espère qu'il y aura des gens dans la salle qui n'ont jamais mangé de choucroute. Donc, pour leur demander leur avis, je ne sais pas si... Donc, ça sera vers 19h30. Donc, je ne sais pas si on n'aura peut-être pas encore passé à la choucroute. Donc, les gens vont pouvoir parler de ce qu'ils attendent. Et c'est un truc qui dure 15 ou 16 heures à travers le monde. Donc, on commence ici et on termine aux États-Unis. Donc, c'est une bonne opération de prestige et de reconnaissance de notre région d'origine.
Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Philippe. Merci. Nous allons bientôt nous revoir. Okay. On parlera gastronomie ensemble. Merci beaucoup.
Plaisir. Merci Thomas.
Merci Thomas.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est samedi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Belle journée. À bientôt.
Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.